La suite de Onde Noire, Onde Noire
deuxième partie,
voilà, avec les livres qui valent un détour, par votre librairie. Donc Jacques, je crois que tu vas nous parler d'une belle découverte.
Oui, alors là c'est plus qu'un détour, c'est un véritable coup de cœur dont je voudrais vous parler. Le roman s'appelle Petite Louve, il est écrit par Marie Van Moer, ou Van Moer, je ne sais pas, ça s'écrit M-O-E-R-E, donc... Je ne sais pas comment ça se prononce en fait.
C'est peut-être Moireux.
Moireux, voilà. C'est publié par la Manufacture des Livres. C'est écrit en français. Elle est française donc. Et quand je vous dis un coup de cœur, c'est aussi un véritable coup de poing car ce roman nous prend vraiment aux tripes. Je vais vous dire quand même deux mots de l'histoire, même s'il faudrait ne pas trop en dire. Même en fait, ce n'est pas le suspense qui est important dans ce roman, mais il faut quand même pas trop en dire. Donc le début en fait, c'est l'histoire d'une mère qui décide de venger sa jeune fille de 12 ans. Qui s'est fait violer, se venger en tuant l'auteur du viol dès sa sortie de prison. Mais ça ne sera pas forcément si simple, car la famille du violeur, des gitans de Marseille, ça se passe des environs de Marseille au début, cette famille de gitans n'appréciera pas non plus que le jeune fils de la famille se fasse dessouder. La fille et la mère donc vont fuir Marseille pour la Corse avec les deux frères au Basque. Enfin, je dis au Basque, même s'ils sont gitans. Le père, quant à lui, il s'est fait la malle, en fait, il supportait pas les deux femmes, à moins qu'en fait ce soit les deux femmes qui le supportaient plus. C'est une trame assez simple, mais finalement assez fondamentale. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où une femme peut aller dans la vengeance pour protéger sa fille, sa meute, sa petite louve? Mais comme le disait Confucius, Yoda ou peut-être Clint Eastwood, celui qui recherche la vengeance doit se souvenir de creuser deux tombes.
C'est qui disait ça, en fait?
Je crois que c'est Confucius. Mais il me semble que Eastwood le dit à un moment donné. Et Marie Van Moer nous offre ici un roman absolument impressionnant, très maîtrisé, qui se lit d'une traite, un peu comme si, en fait, on suivait une mèche allumée dès les premières pages, une mèche qui se consume lentement, mais inexorablement, vers le tas d'explosifs. Un roman où, cependant, les côtés sordides, violents et parfois très crus alterne avec des passages qui sont superbement écrits, qui évoquent la nature, une nature somptueuse comme peut l'être la Corse pour ceux qui connaissent, et en fait cette nature qui remet l'homme, ici la femme en fait, un peu à sa place. En étant un petit peu sévère, on pourrait trouver quelques phrases, quelques dialogues par-ci par-là qui auraient mérité d'infimes corrections. Le plus gros reproche, mais peut-être tout le monde ne le fera pas, c'est la fascination des armes de nombreux personnages. Et comme on vit en Corse...
Oui, mais on est en Corse, c'est ce que j'allais dire aussi, d'un côté on est en Corse.
Voilà,
aussi.
L'auteur vit en Corse, et c'est un peu comme si elle avait été contaminée. Car il semblerait que, comme au Montana, en fait, en Corse, on ne puisse pas vivre vraiment sans armes, ou du moins sans leur faire allégeance. C'est un défaut seulement sur le fond, très léger.
Il doit y avoir la Corsica Rifle Association. Hein.
Probablement. C'est un défaut sur le fond parce qu'en fait, le livre, la forme est absolument très 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 bonne, complètement réussie. Ça laisse néanmoins, enfin en tous les cas pour moi, un léger malaise. Mais ce que je peux dire, c'est que cette petite louve, donc, parue à la Manufacture des Livres, écrit par Maria Van Moer, est hautement recommandée par Onde Noire, par La Noire Rode et puis par moi-même, en fait.
Oui, c'est surtout par toi. Il n'y a pas ce côté, tu parlais des gitans, je pense que ça évite quand même tout racisme et tout.
Ah oui, complètement, c'est juste parce que, ben, en fait, non, c'est pas du tout caricatural, c'est surtout pour montrer, en fait, c'est des clans, quoi, c'est des familles qui...
Voilà, et on est encore.
C'est des familles qui vont se venger, donc ils traversent un peu toute notre région, puisqu'ils partent de Marseille, ils prennent le bateau à Nice, donc voilà, on voit des très beaux paysages aussi. Et c'est vraiment les passages de nature sont vraiment très 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 bien. Je pense qu'ils plairaient à notre ami Pascal Dessin.
Voilà, ben moi je vous emmène. Alors il n'y a pas un endroit de nature ou très très peu. Enfin, c'est quand même un petit peu puisqu'on est en plein centre de New York. Et je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Fils de Sam. C'est un livre écrit par Michael Mention et c'est chez Ring Edition dans la collection Murder Ballad. Je ne sais pas s'il a demandé l'autorisation, Stéphane Bourgoin, à Nick Cave pour Murder Ballad, mais en tout cas, c'est une belle boutique de collection. Le fils de Sam, c'est le nom que l'Amérique a vraiment donné, réellement donné, à un serial killer qui s'appelait, qui s'appelle toujours, David Berkowitz, surnommé aussi à l'époque le tueur au calibre 44, du nom de l'arme qu'il utilisait. Ce serial killer a fait frissonner New York en l'été caniculaire de 77. Fils de Sam, c'est aussi donc le titre du roman, et j'insiste sur le mot roman, qu'attire Michael mention de cette histoire vraie. L'écrivain s'est évidemment abondamment documenté, s'est semble-t-il carrément immergé dans l'enquête, les analyses, les articles autour de cette affaire, ainsi que sur les propos de Berkowitz, qui purge dans un pénitencier 6 condamnations à perpétuité pour les 6 meurtres qu'il a reconnus. Je dois vous dire qu'au départ, moi, les histoires de serial killer, c'est pas franchement ma tasse de thé. Donc, si je vous parle de ce livre, c'est qu'il a vraiment attiré mon attention. D'abord, par le procédé narratif. En alternance, on a un journal, narration au jeu donc, où le tueur raconte les faits marquants de sa vie, sa vision du monde, ses blessures intimes et ses motivations, les pulsions qui le poussent à tuer. Le ton est juste, toujours, comme dans cet extrait. Voilà, je vais vous lire un petit extrait, écriture au scalpel un petit peu. Je l'ai fait. J'ai franchi le rempart interdit. Le fossé entre le citoyen civilisé que j'étais censé être et la bête que l'on m'a fait renier à coups d'écoles et de lois. J'ai fait ce que des millions de gens, des milliards, rêvent de faire et ne feront jamais. J'ai tué. Moi, l'enfant timide, l'ado introverti, l'adulte soumis enfin libéré. J'ai fait bien plus que tuer. J'ai enrayé le cours de la vie, reconfiguré le computer selon mes propres codes. Et maintenant, c'est moi qui décide. Au début, je n'étais pas sûre de l'avoir tué. Le lendemain, j'ai acheté tous les quotidiens et j'ai scruté chaque page à la recherche de mon crime. À l'affût, comme un connard d'écrivain guette son premier lecteur dans le métro. Voilà, je m'excuse, j'ai fait une liaison malte à propos, je vous promets qu'elle n'est pas dans le texte. Vous apprécierez le petit morceau d'humour sur l'ego des écrivains à scruter le premier article ou le premier lecteur. Voilà, un ton vraiment très intéressant. Et du coup, on ressent tout à la fois une empathie pour ce tueur, qui est donc en perte d'identité totale. Vous apprendrez en lisant le livre, par exemple, que dès son plus jeune âge, il y a une inversion de prénom lors de son adoption. Mais on va aussi éprouver régulièrement du dégoût pour celui qui peut ainsi couper les fils de vie jeune, jeune et innocente. Oui, j'aime pas trop ce mot innocente, on va en reparler. C'est donc là tout l'intérêt. On n'est ni dans la confession, ni dans le voyeurisme. Comme je l'ai dit, on a une double narration et alternativement, on a des chapitres qui nous racontent l'Amérique des années 60 et 70, ainsi que l'enquête. Drôle d'époque. Ça, on le savait déjà, où certains hippies basculaient dans des sectes sataniques. Souvenons-nous par exemple de Manson et le meurtre de Sharon Tate. Bien des personnages troubles, et évidemment ce sont des personnages qui ont vraiment existé, la preuve, il y a même leurs photos dans le roman. Donc Stark par exemple, un agent de la CIA, mais aussi pourvoyeur en LSD de l'église de Satan et la confrérie de Leary, qui pourrait bien, Michael Mention le suggère, nous interroge, être mêlé à cette série de crimes. En fait, si vous connaissez un peu le roman noir et la littérature noire américaine, on est ici très près de l'ambiance de certains romans de James Ellroy. L'Amérique et ses blessures, l'assassinat de JFK, le Vietnam, les attentats, les crises. Ça semble être un terreau bien favorable à l'éclosion de personnages comme Berkowitz. L'oncle Sam, décidément, a accouché de fils bien étranges. Quand vous refermerez ce livre, des doutes raisonnables subsisteront dans votre esprit. Et c'est certainement une des qualités majeures de ce roman. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces mots « innocence »,« culpabilité », des mots bien trop complexes pour les employer avec légèreté. Ce roman, le deuxième roman noir de Michael Mention, son premier roman « Saletant pour le pays », paru chez Rivage Noir, Michael Mention avait déjà fait preuve de beaucoup de finesse et d'intelligence en nous racontant déjà la traque d'un serial killer. C'était à l'époque en Angleterre la traque de l'éventreur du Yorkshire. Et on attend avec impatience le troisième opus de ce jeune écrivain qui va sortir chez Rivage Noir,
courant mars.
Hein. Cet écrivain, donc, qui, à mon avis, a un bel avenir devant lui et qui sait vraiment bien manier, justement, les thèmes importants du roman noir. Voilà. Donc, je rappelle, s'appelle pas Le Fils de Sam, Fils de Sam. Une couverture un peu flashy, un peu rouge à mon goût, quoi. Mais l'intérieur...
Noir et rouge.
L'intérieur vaut le coup qu'on ouvre le livre.
De Michael Mention, donc.
Voilà, chez Ring Edition. Et justement, donc... Michael Mention, j'ai dit que c'était dans les années 60-70, il y a beaucoup de musique dans le roman.
En fait, tout au long du roman, il y a des allusions, plus qu'allusions des fois, à des morceaux de musique. Et donc, j'ai pris dans la playlist, alors on aurait pu en prendre plein, Magma, Zappa, Bowie, mais en fait, j'ai choisi un morceau de Quicksilver Messenger Service, qui est un morceau de un groupe hippie psychédélique de la fin des années 60. Le morceau est un vieux morceau de Bo Diddley qui s'appelle Who Do You Love. On ne le passera pas en entier parce qu'il faisait toute une phase de vinyle, soit à peu près 25 minutes. Donc vous allez profiter de quelques mesures.
Quand même.
Who Do You Love par Quicksilver Messenger Service. Qui était John Cipollina dans le Quicksilver. On disait rarement le nom en entier.
Voilà, Who Do You Love.
Oui, vous connaissez peut-être la version par les Doors aussi, mais j'aime bien celle-là, qui est un peu plus psychée.
Par rapport à la thématique du fils de Sam, c'était un bon choix.
Voilà.
Voilà, nous allons terminer par une autre découverte.
Une autre découverte et une autre biographie, romancée ou pas d'ailleurs, pas vraiment en fait, c'est plutôt documentaire. Dans tous les cas, c'est celle d'un personnage véridique. C'est un roman un texte de Julian Rubinstein qui s'appelle La Ballade du voleur au whisky, qui est publié aux éditions Sonatine et qui est traduit de l'anglais par Clément Baude. C'est donc l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Attila Ambrus, un jeune homme qui est né en Transylvanie. Ça ne s'invente pas.
Ça ne s'invente pas, ça.
Exactement,
c'est Attila, en Transylvanie.
Voilà. Bon, apparemment, Attila est un prénom qui est quand même plus courant là-bas que chez nous.
Bah oui.
Donc il est
Dracula aussi. Hein.
Voilà, donc il est roumain en fait, né sous Ceausescu, et il fuit la Roumanie et il se réfugie en Hongrie en 1988. Il a à peu près 21 ans. Et là, il va le faire tout un tas de petits boulots pour vivre pour survivre. En fait, au départ, il voudrait être, et il deviendra d'ailleurs, joueur de hockey professionnel. Un assez pitoyable goal, pour tout dire. Mais il finira par trouver sa vraie voie dans le braquage de banque, des bureaux de poste au début. Braquage à main armée, mais sans violence ni haine. C'est aussi pourquoi on l'a parfois surnommé le Mesrine hongrois. Mais pourquoi le voleur au whisky, vous allez me dire?
Oui.
Eh bien, parce que
Attila, ça fait un beau titre.
Voilà, ça fait un beau titre. Mais Attila, en fait, aime beaucoup le whisky. Surtout celui avec un monsieur en habit rouge qui s'appelle Johnny dessus.
Oh, il n'est pas du meilleur. Enfin, il aurait pu trouver quelques single balls de meilleurs.
Oui, mais enfin, en même temps, comme il en boit beaucoup à chaque fois qu'il prépare et exécute un hold-up, il en abuse pour tout dire. Et en fait, la plupart de ses hold-up, eh ben, il les fait carrément bourré comme un coin ou comme un polonais, comme on doit probablement dire par là-bas. Et Attila va
réussir... C'est un propos presque raciste, je ne peux pas dire, mais...
Attila va réussir ses 29 casses en bénéficiant d'une chance assez inouïe et aussi de l'incompétence de la police de l'époque. Il faut dire que bon, l'incompétence de la police est un petit peu compensée par son manque de moyens, autant humains que techniques.
Peut-être qu'il buvait aussi, on ne sait pas.
A priori, pas dans le récit en tous les cas. Et donc, en fait, le récit, voilà, il nous raconte un peu toute la vie, donc de la dernière partie de son arrivée en Hongrie jusqu'à ben, de nos jours. Il est toujours, en fait, non, il est sorti de prison un peu après la rédaction de ce livre. Donc, il y a une légère postface qui nous dit qu'il est sorti de prison. Et c'est un récit qui en dit aussi beaucoup sur l'auteur, typiquement américain, pourtant journaliste d'investigation assez reconnu, mais qui ne peut pas faire autrement que de voir le communisme uniquement comme une abomination. Par contre, pour compenser, enfin pas pour compenser, mais il nous raconte aussi la Hongrie post-soviétique, une Hongrie en marche vers un libéralisme forcé, enfin à marche forcée plutôt, un libéralisme qui s'avérera être au moins aussi destructeur que le communisme qu'il fuyait à grands pas.
Alors, c'est un grand classique, mais ça vaut toujours le coup d'être dit.
Donc c'est pas du tout dans la veine du fils de Sam, parce que là c'est en fait un récit très très alerte, très souvent hilarant, voire loufoque, tant par l'histoire elle-même, qui est quand même relativement rocambolesque, parce que le mec il fait tous ses casses en étant moitié bourré, déguisé.
Ce qui est dingue, c'est qu'il y arrive.
Oui. Et puis sans vraiment... Il a souvent un complice, mais en fait ça se passe vraiment de façon assez... étonnamment facile, et il ramasse des millions de fortins, voilà. C'est la monnaie de là-bas, voilà, qui fait quand même, c'était...
La couronne.
Voilà. Et donc, ce qui est bien raconté, c'est qu'en fait, l'auteur prend un ton assez distancié, amusé, parfois affectueux, sans jamais être complètement admiratif. Et du coup, le lecteur finit par avoir aussi une certaine empathie, une certaine sympathie pour ce mec, parce qu'en fait, c'est quand même... C'est un bon bougre. Il dit qu'il faisait allusion à Robin des Bois, parce qu'en fait, bon, il dit qu'il volait aux riches pour donner aux pauvres, en fait, il donnait qu'à lui, mais il prenait qu'à des banques, donc il volait personne.
On va donc conclure cette émission en redonnant les titres.
Je voulais juste dire qu'en fait...
C'est le temps page.
Oui, je sais, mais que en fait, cet Attila donc, a vraiment existé, qu'il y a eu déjà un livre, celui qui n'était pas traduit en français, mais qu'il y a eu pas mal de chansons qui ont été écrites, on aurait pu en passer une avant.
Robin des Bois, non pas.
Voilà. Et l'auteur a complété son livre en fait par un site internet qui s'appelle whiskeyrobber.com, Robber avec R-O-B-B-E-R. Et Attila même, qui est maintenant libre, a une page Facebook qui a l'air réelle et officielle, du moins pour ce que j'ai pu en juger, vu qu'elle est magyar, qui est la langue hongroise, et donc je peux pas du tout accessible pour moi en tous les cas.
Bon, ben, ça nous fait donc plein de choses à aller voir. En tout cas, on rappelle le titre du livre, La balade du voleur de whisky.
De Julian Rubinstein, chez Sonatine.
Et la traduction est de...
Clément Baude.
Eh bien, à la prochaine émission, chacun dans son coin avec un bouquin.
Bonsoir.